Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Céline Delval, qui est une membre de la communauté no-code France depuis un moment, qui fait du no-code dans l'équipe no-code de Jelly's Mac, qui est passée par la cantine, le Web Today, plein de choses hyper intéressantes dans son parcours, mais en plus, elle revient tout juste d'un no-code tour aux États-Unis et au Canada qu'elle va nous raconter dans cet épisode. Allez, j'envoie ça tout de suite. Salut Céline, bienvenue dans le podcast de Contournement. Je suis très content d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on avait prévu cet échange. Quand je t'ai proposé, tu m'as dit « Ah bah je vais bientôt partir en voyage, donc est-ce que ça serait pas cool de faire plutôt l'épisode après ?» Et donc moi, évidemment, avec grand plaisir, parce que tu as fait un super voyage en Amérique du Nord, donc tu vas nous raconter ça. Voilà, donc ça c'est un des sujets, mais aussi j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours, de différentes choses que tu as fait, avec du no-code notamment, voilà, pour qu'on en sache un petit peu plus déjà, ça va être très intéressant.
Déjà, merci beaucoup pour ton accueil. Je suis auditrice du podcast, donc je suis contente d'être de l'autre côté aujourd'hui. Et aussi, merci pour ton intérêt, notamment pour mon parcours et mon voyage que je vais te raconter.
Eh bien écoute, commençons. Alors si tu veux te présenter déjà pour que les gens en sachent un petit peu plus sur toi.
Oui, bah écoute, je ne vais pas peut-être te raconter toute ma carrière de façon chronologique parce qu'elle est un petit peu longue, mais peut-être je peux commencer par t'expliquer quand je suis arrivée dans le no-code dans ma carrière. En fait, j'étais salariée d'une association qui s'appelle La Cantine Numérique à Nantes et qui est une association qui notamment organise des événements autour du numérique pour les professionnels du sujet. Et donc, travaillant pour cette association, moi, je travaillais aussi pour l'organisation du festival Web Today avec toute l'équipe. Mon rôle à moi sur le festival, c'était le développement international, mais surtout la gestion des speakers. Donc, ça voulait dire aller les chercher, les inviter, les faire venir, mais aussi organiser leur logistique. Donc, leur transport, leur hébergement, les mettre en relation avec des gens pour qu'ils aient des rendez-vous sur place. Et puis, mon rôle pendant le festival, c'était d'être la nounou et d'être là s'ils avaient besoin de changer un billet de train, s'il y avait une grève, enfin, voilà. Donc, je gérais beaucoup de données sur les speakers, sur leur identité, leur présence au festival. Et j'avais besoin, le jour J, sur les 3 jours du festival, d'avoir toutes les informations très bien rangé, puisque j'ai eu plein de péripéties comme des grèves de train, des speakers qui loupaient les avions, donc beaucoup de logistique à gérer. Et donc, je travaillais sur des fichiers Excel, des fichiers Google, et j'avais commencé à faire des automatisations avec Zapier pour l'organisation d'événements au quotidien. Donc, c'était mon premier lien vers le no-code. Et un jour, j'avais besoin d'automatiser, je voulais automatiser deux outils pour l'organisation du festival. Et Zapier me répond, si tu veux faire ça, tu devrais regarder du côté d'Airtable. Et donc, je suis allée voir, puisque je ne connaissais pas, j'ai regardé leur site, et c'était en 2018. Donc, le site n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, enfin, l'outil n'avait pas les automatisations, les interfaces, n'était pas aussi développé, mais répondait déjà à beaucoup de mes problématiques. Et en plus de répondre à des problématiques d'organisation personnelle, de gestion de mes données, ça me permettait aussi de partager l'information avec mes collègues facilement. Quand j'ai vu les différentes vues, par exemple, on avait une problématique. Moi, je gérais les speakers sur, par exemple, la partie logistique. Et on avait une partie de l'équipe qui était sur le programme et qui décidait, par exemple, l'heure de passage, le jour de passage pour la conférence. Et s'ils changeaient une information, eux travaillaient sur un Google Sheet. S'ils changeaient la conférence d'un jour à l'autre, moi, j'étais pas forcément informée, alors que moi, je pouvais savoir que la personne avait décalé son arrivée et arrivait un jour plus tard. Donc, ça collait pas pour la programmation. Donc, on avait
classique.
Un gros problème de partage de données. Voilà. Et finalement, on avait chacun nos listes de notre côté, avec des orthographes sur les noms qui pouvaient être différentes, avec des titres de conférences qui changeaient sans arrêt. On savait plus où était la source de vérité, la source of truth. Et donc, Airtable répondait à cette problématique exactement. En plus, ça nous... Oui.
Est-ce que, juste par curiosité, est-ce que, donc vous utilisez des fichiers Excel, est-ce que déjà Google Sheets n'aurait pas déjà aidé, quoi ? C'est-à-dire, tu vois, sur le côté, bah, déjà, synchronisation, etc.
On a fait les deux, effectivement, puisque j'ai travaillé 7 ans pour la cantine numérique. Donc, au début, c'était sur des fichiers Excel parce que moi, j'avais beaucoup utilisé Excel au cours de ma carrière, donc j'étais assez à l'aise. Et j'avais fait des liaisons entre les onglets, par exemple. Tu vois, j'étais un peu déjà dans la base de données relationnelle.
Ok.
En faisant des liaisons entre les onglets, mais si tu supprimais une ligne d'un côté, ça décalait tout de l'autre, dans l'autre onglet, okay. C'était un enfer.
Ouais,
mais c'était déjà un progrès, parce qu'on avait réussi un peu à centraliser, par exemple, la liste des speakers. Pour ceux qui connaissent pas l'événement, c'est quand même, j'ai eu des années avec 300 speakers. Donc, okay. C'était une liste assez importante. On a essayé Trello, parce que moi, mon travail avec les speakers, c'est d'aller les inviter. Ensuite, je leur change de statut, je les passe en contacté. Ensuite, je les passe en refus ou en accord ou en tout réservé. Donc, on avait déjà envie d'utiliser des outils qui nous facilitaient la vie, mais il n'y en avait aucun qui répondait à plusieurs des problématiques qu'on avait. Et les informations qui étaient dans Trello, bah derrière, je ne pouvais pas les exploiter dans un Google Sheet, par exemple. Mais j'ai dérivé sur ta question. Google Sheet, on l'a utilisé aussi. Ça n'a pas résolu plus de problèmes que ça, en fait.
Ok. Non, mais c'est parce que je pense que c'est un problème dont les gens, maintenant, se rendent peut-être plus compte, mais bon, qui est encore très présent dans beaucoup de PME et tout. C'est ce côté, avoir plein de fichiers Excel volants, tu vois, enfin, et que chacun a sa copie de son fichier Excel. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis à utiliser des tableurs avec Google Sheet, qui ont ce truc un peu de... que tout de base est synchronisé, c'est-à-dire qu'on travaille sur le même tableur, mais en fait, historiquement, quand même, chacun a son tableur, enfin son fichier, et donc ça a plein de problèmes de synchronisation, enfin tu vois, les trucs que tu évoquais, et que résout aussi, bah, évidemment, extrêmement bien Airtable, quoi.
Oui, donc j'ai testé avec les données de l'année passée pour construire une base, pour voir ce que ça donnait, et ben ça marchait très bien. J'ai fait un peu le forcing dans l'équipe, mais j'étais un peu la madame Excel, donc on me faisait un peu confiance.
Ok.
Sur la gestion des données.
T'es un peu la tool girl, comme on dit.
Oui, bah oui, parce que du coup j'utilisais déjà Zapier, et puis j'avais fait venir Slack, et puis Typeform aussi assez tôt. Donc oui, j'étais toujours à la recherche des outils qui nous aidaient parce que c'est très artisanal la cantine. C'est une petite équipe. À mon époque, c'était 10 personnes, 10 salariés, dont peut-être 3 stagiaires qui n'avaient pas d'expérience précédente sur l'événement. Donc okay. Voilà, il fallait avoir des ressources.
Juste pour savoir, pour le contexte, qu'est-ce que tu as fait comme étude et du coup ça en relation, est-ce que tu vois quand t'es arrivé sur Airtable, est-ce que ça t'a paru simple de faire le schéma de la base de données, tu vois, enfin c'est choses qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde, tu vois, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des formations, tu vois, enfin voilà, c'est juste pour savoir, moi j'aime bien savoir si les gens ont un background technique ou pas, tu vois, parce que ça aide à saisir aussi un petit peu si ça a été facile pour eux ou pas de tu vois, de saisir des outils.
Non, bah, j'avais pas de background technique parce que moi, j'ai fait langues étrangères appliquées. Et à l'époque, à la fac, les cours que j'avais d'informatique, j'ai eu des cours d'access quand même. Okay. Ouais. Et j'avais des cours... non, vraiment, je savais pas utiliser un ordinateur en sortant de la fac. Donc... Okay.
C'est marrant parce que Access, alors c'est un peu le hasard, mais le Access, c'est quand même vraiment un des ancêtres d'Airtable, quelque part. C'est un des premiers outils qui a essayé un petit peu comme ça de proposer une abstraction un peu de la base de données, quoi.
Bah oui, bah finalement, c'était assez pénible pour moi à l'époque, mais j'ai dû avoir peut-être des restes.
Ouais.
Et, mais ça a été surtout l'utilisation derrière d'Excel, parce qu'après la fac... Je savais pas utiliser un ordinateur à une époque où justement l'informatique entrait à pleine balle dans les entreprises. Donc j'étais en décalage. Donc j'ai fait un BTS d'assistant de direction au CNED à distance. Et là j'ai appris tout ce qu'était la bureautique. Word, Excel. Et bah j'ai pu associer mes compétences universitaires avec cette compétence informatique et j'ai surtout fait des postes d'assistante. Et comme en bureautique, j'assurais pas mal, j'avais beaucoup de travail. Donc, j'ai travaillé dans des centres de formation, dans des laboratoires pharmaceutiques, dans plein de types d'entreprises différentes, beaucoup en intérim. Et donc, j'allais remplacer souvent des personnes qui avaient quitté leur poste ou qui étaient absentes.
Donc, tu devais arriver à vite te
M'adapter.
comprendre, ouais, t'adapter, voilà, au contexte.
Exactement. Et à chaque fois, je piochais une compétence de plus sur l'outil et j'apportais moi des améliorations de choses que je savais faire. Donc, j'améliorais toujours les outils par lesquels je passais. Puis finalement, avec plusieurs années d'expérience, j'étais très à l'aise. Donc, quand j'ai découvert Airtable et la relation entre les tables, ça m'a paru accessible. Donc, ça ne m'a pas fait peur du tout. Donc, il y avait cette pratique, oui, de tableur, de gestion de base de données sur un tableur et de ce qu'on pouvait en faire avec des relations et des tableaux croisés dynamiques.
Ok. Juste attends, je t'interromps une seconde parce qu'il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est que je vois pas les lignes en bas. Est-ce que tu vois bouger les, tu sais, en bas de sous ma vidéo? Tu sais, il y a des lignes normalement.
Oui.
Tu les vois bouger?
Alors, je vois bouger les tiennes, mais c'est vrai que je vois rien bouger pour moi.
Moi, je vois pas aucune des deux en fait. Alors attends, tu sais quoi, je vais juste, mais je me demande si je pense que c'est un bug plutôt de l'interface. Mais juste, je vais vérifier. Je vais stopper cet enregistrement. Ça, je vais vérifier que ça marche bien. Je crois que la page elle va se rafraîchir, hein, donc t'inquiète pas, mais juste bouge pas. Et donc l'ajout de Airtable, du coup, dans votre stack pour cette organisation, là, toute cette logistique, on imagine, hein, la logistique d'un festival de 10 000 personnes, c'est assez monstrueux comme tu l'évoquais. Quel impact ça a eu, du coup, enfin, dans tout ça?
Déjà, ça a fluidifié notre organisation, ça c'est sûr. L'année précédente, on avait un stagiaire sur l'édition précédente qui était chargé de mettre à jour sur le site web du festival les bios et les résumés des conférences des speakers. Et il devait mettre aussi la version anglaise. Et ça changeait tout le temps et on avait presque une personne à temps plein sur cette mission, avec très peu de valeur ajoutée, mais très importante. L'arrivée d'Airtable, ça nous a permis, avec l'API d'Airtable déjà à l'époque, de connecter notre base de données à notre site. Donc déjà, on a économisé presque un poste à temps plein sur l'organisation du festival. Quelqu'un qui a pu faire des choses plus intéressantes, par exemple se consacrer davantage à la communication. Donc déjà, il y a eu cet impact de gain de temps. Moi, pour le jour J, je trouvais facilement mes données, j'avais pas de problème. J'avais l'habitude d'avoir trois gros classeurs remplis d'impressions. J'imprimais tout pour mes speakers. J'imprimais leurs billets de train, leur réservation d'hôtel, des échanges que j'avais pu avoir avec eux sur leurs préférences alimentaires. J'avais besoin d'être assurée d'avoir toutes les informations sous la main en papier. Tout ça, mes trois classeurs, je les avais encore avec Airtable, mais j'en ai pas eu besoin. Donc, c'était vraiment plus simple. Et après, ça a eu un impact sur l'organisation au quotidien, parce que le festival Web Today, c'est une partie de notre année en termes d'organisation, mais la cantine, ça gère un lieu, ça gère du coworking fixe, ça veut dire avec des baux, avec des contrats, c'est du coworking de passage, avec des carnets de tickets et du décompte à faire. Ça gère une liste d'entrepreneurs, d'adhérents, de l'événementiel. Donc finalement, j'ai pu développer Airtable sur toutes nos autres activités, jusqu'à la communication, jusqu'à la gestion des factures même. Donc ça a vraiment changé, je pense, l'organisation pas du festival, mais de toute la cantine en profondeur. Et après, à mon départ, Amandine a pris la suite et elle a ajouté la couche d'automatisation. Elle a mis le turbo. J'avais commencé un peu, mais on en avait assez peu finalement. Et elle a pu encore multiplier l'automatisation avec du no-code puissance 10 000.
Toi, tu disais que c'était principalement Zapier que tu utilisais, et
Oui.
puis elle a introduit Make, peut-être.
Ouais, c'est ça, absolument. à partir de 2019, elle a pris le relais. Je pense qu'elle est passée rapidement vers mec, mais ça, c'est elle qui le racontera.
Ouais. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'échanger avec elle dans un épisode de podcast. Je me souviens plus de quel numéro, mais on va un petit peu parler en effet. Et alors toi, qu'est-ce que t'as fait après la cantine ?
Alors après la cantine, je suis tombée dans la marmite. J'ai voulu faire que du no-code en fait, vraiment. Donc j'ai fait des missions. Je travaillais pour des assos ou des entreprises. Et puis un jour, je suis tombée sur. Je cherchais du contenu pour monter mon niveau, puisque finalement, je travaillais principalement avec Airtable ou Zapier, mais j'avais entendu parler de Make. Mais je voulais monter de niveau et il y avait encore assez peu de contenu. Ça devait être en 2020. Je suis tombée sur des vidéos de Lilian. Je ne sais plus le titre. C'était le CRM de la mort.
Il avait fait une série de live pendant 2 mois, je crois, comme ça, peut-être un peu plus. Chaque semaine, il construisait un CRM avec plein de fonctionnalités et tout, effectivement. C'est marrant que tu évoques ça, parce que je sais qu'il m'en a déjà parlé. Il a plein de gens qui l'ont découvert grâce à ça. Enfin, c'était hyper rentable, finalement, cette heure qu'il a passée en live, tu vois, pendant plusieurs semaines. Je crois que c'était le mardi, comme ça, tous les mardis pendant plusieurs semaines, où il a construit ça et ça a fait un super use case, quoi, j'ai l'impression.
Bah oui, moi je l'ai suivi et ça m'a fait monter en niveau, si tu veux. J'ai pu développer des choses encore plus complexes. C'est là où j'ai commencé à faire plus d'automatisation et de connexion entre les outils, parce que c'était très bien fait ces vidéos. Et ça m'a fait monter en gamme. Et plus tard, Lilian est parti sur un poste chez Jellysmack comme ingénieur no-code. Et ils étaient encore en recrutement et j'ai demandé à Lilian, ingénieur no-code, c'est un terme qui fait peur. Et puis, tu as l'impression d'usurper parce que bon, j'ai pas fait d'études d'ingénieur. Mais il m'a dit de tenter le coup. Et donc, j'ai postulé, j'ai fait les différents entretiens et puis c'était incroyable, mais j'ai été recrutée en tant qu'ingénieur no-code.
Ouais. Sachant que lui non plus n'a pas fait d'études d'ingénieur d'ailleurs.
Oui, alors je crois que tout est parti du premier no-codeur chez Jellysmack, qui lui était un ingénieur. Okay. Enfin, un ingénieur no-code, mais donc certainement que le titre est venu de là.
Ouais. Sachant que c'est un peu difficile parce que tu vas nous expliquer ce que vous faisiez, qui est hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas en fait de job vraiment associé à ce type de poste. Donc en fait, les jobs sont en train un peu d'être... Les titres en tout cas sont un peu inventés, quoi. Mais du coup, explique-nous un petit peu dans tes termes, toi, quelle était la mission de votre équipe chez Jellysmack et puis de toi plus particulièrement, ce que tu faisais.
Oui, alors l'équipe no-code chez Jellysmack, donc c'est 8 personnes dédiées à la création d'outils et la mise en place d'automatisation pour les collègues. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas une agence, on ne travaille pas pour des clients extérieurs, on ne travaille pas pour le core product qui va être en vente pour des clients. C'est vraiment faciliter la vie des collègues.
C'est un peu comme ça que me l'avait présenté aussi Lilian, et je trouve ça vachement intéressant, tu vois, parce que je trouve que ça veut tout dire, tu vois, simplifier la vie de ses collègues. Je trouve que c'est une belle mission.
Oui.
Et tu vois, et c'est, pour moi, ça représente vraiment exactement ce que doit être le no-code. En tout cas, le versant ops, on va dire, du no-code, et tout Airtable, Make, etc. Et je trouve que c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial, tu vois. Enfin, et nous, et c'est pour ça qu'il faudra qu'on trouve un titre pour les gens qui font ça. Mais parce que moi, je trouve que toutes les PME devraient avoir une personne au moins, tu vois. Peut-être pas une équipe de 10 ou de 8, tu vois, parce que Jellysmack, c'est une grosse structure. Mais tu vois, toutes les boîtes, elles pourraient avoir une personne dont le job, c'est de simplifier la vie des autres, tu vois. Je trouve ça génial, quoi.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment un rôle très noble et très gratifiant. Et ça fait pas mal boule de neige, puisque quand l'un apprend que l'autre a une solution développée, qu'il gagne du temps, qu'il n'a plus à faire cette tâche rébarbative qui l'ennuie chaque fin de mois, je ne sais pas laquelle. Mais évidemment, ça fait boule de neige et chacun, après, trouve des cas d'usage et trouve des besoins, en fait.
Et comment ça se passait déjà? Est-ce que tu as quelques exemples justement de choses que vous faisiez pour vos collègues?
Alors, y a, L'exemple le plus simple, parce que c'est un métier transverse, ça va être par exemple pour les ressources humaines. À une époque, Jelly Smack engageait beaucoup de monde. J'ai entendu des chiffres comme 50 personnes par semaine à une époque.
Ah ouais, c'est incroyable.
Des gens qui travaillaient essentiellement en remote, donc ça veut dire l'envoi du matériel. En fait, toute la gestion de l'onboarding a été mise en place en no-code, récupération des informations personnelles auprès du salarié, tout ça c'est automatisé. Les RH avaient juste quelques informations à rentrer, comme l'email, la date d'arrivée, le poste, enfin des informations clés. Puis derrière, bien sûr, comme tu l'imagines, tout un workflow automatisé pour aller récupérer les informations, les ranger dans les bons dossiers, envoyer le bon matériel, voilà, bah, gérer toute l'arrivée du nouveau salarié. C'est un exemple qui peut parler à tout le monde, ça, je pense.
Ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est vraiment, on voit, c'est un mélange de logistique et de processus métier. Enfin, voilà, l'onboarding, je trouve que c'est un super exemple. On va dire l'embarquement en français. Donc, quand un nouveau salarié arrive, il y a toute une suite d'actions qui doivent être faites. Et ça, c'est vraiment un très bon exemple de processus. Donc, il arrive, il doit signer un contrat, il doit faire ci, il y a un ordre. Dans tout ça, il y a des choses qui se passent avant qu'il arrive. Une fois qu'il est arrivé, il se passe d'autres choses. Il y a tout un truc, ça se modélise très bien. Et il y a des parties physiques, comme tu dis, envoyer des ordi. Il y a des parties peut-être virtuelles. Je suppose que les contrats, par exemple, étaient signés en ligne. Et donc, ouais, c'est un super cas d'usage.
Absolument. Alors, pas que des métiers transverses. C'était aussi des solutions pour des métiers très spécifiques, des besoins très spécifiques aux différents collaborateurs. Un exemple pour expliquer déjà ce que fait Jelly Smack. Jelly Smack aide les créateurs de contenu à développer leur audience en leur permettant d'utiliser par exemple des publications sur plusieurs plateformes. Mais Jelly Smack produit aussi son propre contenu à beaucoup de chaînes YouTube, Facebook, sur les réseaux sociaux et peut être amené à recevoir des plaintes parce qu'ils réutilisent des vidéos, des sons. Et on a automatisé pour les personnes qui géraient les plaintes la réception de l'email de plainte avec récupération de qui se plaint. Enfin, on a mis en place toute une base Airtable de gestion des plaintes et d'automatisation et de rappel, etc. Tout un processus métier très très spécifique que j'aurais pas développé dans une autre boîte, par exemple. Donc c'est pas que du transverse, ça peut être vraiment du spécifique métier. J'ai perdu ton son complètement là cette fois.
Ah pardon, c'est moi qui ai oublié d'enlever. Des fois, je mets mon micro en muet pour boire ou pour toucher un truc et j'ai oublié, j'ai commencé à parler. Pardon, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est hyper intéressant. On pourra en parler des heures, mais on a aussi ce sujet de ton voyage que tu as fait, donc j'aimerais bien qu'on passe là-dessus. Tu es parti, donc là on enregistre mi-juin, et tu es parti en avril, si je ne dis pas de bêtises.
Je suis parti en mai.
En mai, pardon.
Je suis parti le 11 mai pour 3 semaines aux États-Unis et au Canada, sur plusieurs destinations. Mon objectif, c'était d'aller rencontrer des utilisateurs no-code et des éditeurs d'outils. Et l'idée de départ, c'est... J'ai beaucoup aimé le No-Code Summit à Paris à l'automne dernier et cette ambiance internationale, de voir que des no-codeurs, parler avec des gens qui comprennent ce que tu dis, c'est très agréable et puis de voir les gens en vrai aussi. Et j'avais quand même une petite frustration qui était l'absence d'Airtable à cet événement. Et après le Summit, j'ai recherché sur quel événement je pourrais avoir du contenu Airtable, pour renouveler un peu cette expérience que j'avais bien aimée. Et j'ai trouvé cet événement qui s'appelle Dairtable, qui avait eu lieu l'année d'avant, je crois, au Texas. Et j'ai contacté l'organisateur pour savoir s'il allait avoir une nouvelle édition. Il m'a dit que oui, et je crois même qu'il m'a dit que cette édition-là aurait lieu à San Francisco. Donc, j'étais partie bille en tête qu'au mois de mai, j'allais participer de toute façon à cet événement.
Et donc, c'est un événement communautaire, pour préciser. C'est, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer, mais soutenu par Airtable, mais c'est une personne que tu as dit qui fait partie de la communauté, que ce n'est pas un salarié d'Airtable qui utilise ça, qui organise ça.
L'initiative est partie de Chris Dancy, donc qui a créé l'événement, et un autre, Ben, est venu l'aider à co-organiser depuis. C'est une initiative privée qui a été hébergée chez Airtable cette année pour la première fois dans leur QG à San Francisco. Ils ont participé, ils ont donné une conférence pour expliquer un peu leur roadmap et répondre aux questions, mais ils n'étaient pas présents sur toutes les conférences et le contenu. Et c'est un événement qui était assez confidentiel puisque ça réunissait une centaine de participants.
Ok, c'est chouette ça parce que quand même, j'imagine que le côté taille humaine fait une différence. Bah, par exemple, tu évoquais le Summit qui, jusqu'à ce jour, est, je pense, un des plus gros, c'est, je pense, le plus gros événement, on va dire, no code un petit peu transverse en dehors des événements organisés par les éditeurs qui a eu lieu. Donc, c'était 1000, 1200 personnes, je crois, le Summit sur 2 jours. Et c'était génial, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, il faut le dire. Mais il y avait une marée humaine, quoi. Enfin, en plus, le lieu était quand même pas non plus immense. Donc, il y avait ce truc où bah, c'était cool de tout le temps croiser des gens qu'on connaît, de se rentrer dedans, etc. Mais on ne pouvait pas non plus vraiment prendre le temps de se poser. Je trouve que c'était un petit peu. C'était différent, quoi. Enfin, je sais pas, du coup. Mais du coup, raconte-nous un petit peu ce d'Airtable.
Oui, alors c'était 2 jours de conférences, ben, principalement sur Airtable. Alors après, on a parlé un peu de mecs. J'étais assez surprise de voir que beaucoup de gens dans l'assemblée, donc c'était une centaine de participants, que des fanas, t'imagines bien,
Ouais, j'imagine.
d'Airtable. 98 Américains, une Française et une Belge. Voilà, pour te dresser
Ok.
un peu le panorama.
Ok.
Donc beaucoup d'Américains dans l'assistance. Mec, pardon, était présent en tant que sponsor. Donc ils
Ok.
sont intervenus pour présenter Mec. Et voilà, dans l'assistance, beaucoup de personnes étaient intéressées par cette découverte parce que Zapier est beaucoup plus installé sur le continent américain que Mec pour l'instant.
Ouais, je crois très largement même d'ailleurs en termes. Enfin, j'avais vu passer des chiffres un petit peu non officiels parce que je pense que personne communique là-dessus, mais enfin, le nombre d'utilisateurs un peu supposé de Make aux États-Unis était, je sais pas, 90 fois moins que Zapier, quoi.
Alors, ce n'était pas une découverte pour tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui ont présenté des cas d'usage, qui montrent
Dans
un
la
peu leur.
communauté des makers, probablement. Parce que, qu'est-ce que
Oui.
tu dirais que c'était les profils justement de ces 99 autres personnes qui étaient avec toi?
Eh bien, c'était beaucoup de freelance. Mais il y avait quand même quelques citizen développeurs. Alors, des gens qui sont tombés dans Airtable depuis peut-être un an, mais qui sont tombés complètement et qui ont révolutionné leur process interne. Donc voilà, qui font pas de presta, mais vraiment qui ont révolutionné leur orga.
Dans des grosses boîtes?
Oui, ça peut être des grosses boîtes, ça peut être des agences, enfin des agences, je pense à une agence immobilière par exemple, une nana qui a vraiment tout révolutionné, la création des annonces, la publication des annonces, tout ça avec Airtable et le no-code. Et puis, il y avait quelques agences no-code elles-mêmes. Mais des salariés comme moi, dans une entreprise, dans une équipe no-code, j'en ai pas croisé.
Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, tu vois, des boîtes qui ont des équipes no-code comme ça? Alors, je pense que c'est difficile peut-être à évaluer parce que même en France, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais est-ce que, je sais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire?
Alors, il y avait une des participantes qui est très active dans la communauté Airtable américaine, qui a été la recrutée par Apple pour être
Ok.
chef du no-code.
Ok.
Donc, évidemment, tu as ces grands exemples-là. J'ai pas rencontré d'autres exemples d'entreprises comme ça qui a des gens dédiés en interne, finalement. Mais voilà, j'ai cet exemple Apple, mais c'est le seul que je peux te citer.
Bah, quand ils auront développé un peu une équipe no-code chez Apple, ça sera un super exemple à citer parce que c'est quand même une boîte que tout le monde connaît, évidemment, qui est grosse et qui est un peu emblématique. Mais c'est vrai que tu vois, en France, Donc, on avait l'exemple de Jelly Smack, de GoJob, à ma connaissance, où il y a une petite équipe no-code qui, aussi, j'ai l'impression, dont la taille fluctue un peu. Il y a chez ASAP, Florent, qui a recruté plusieurs no-codeurs et no-codeuses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça d'exemples, finalement, de boîtes qui ont structuré une équipe no-code. On en cherche, d'ailleurs, mais c'est intéressant. Et donc, je me demandais si aux États-Unis, on avait plus, moins. Parce qu'aux États-Unis, ils ont aussi beaucoup, j'ai l'impression, cette culture du freelance, des agences. Si une boîte, elle a besoin de quelque chose, elle va recruter un freelance. Et puis voilà, quoi.
Ouais, je te dis, ça, c'est encore assez rare, mais ça va venir, c'est certain.
Et en termes de contenu, enfin déjà j'avais une première question qui est toute bête, mais juste c'était payant. Enfin, je suppose que c'était payant, mais
oui, c'était
combien?
$350.
Ok.
Ouais.
Non, mais c'est le prix d'une conférence professionnelle. Hein.
Oui, et puis c'était au QG d'Airtable.
Ouais, ça c'est sûr que c'est juste pour voir les bureaux.
Ouais, ouais, ouais.
Dis-nous alors un petit peu, du coup, forcément, on résiste pas à la question de savoir un petit peu comment sont leurs bureaux, même si après, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur le contenu que tu as reçu.
Bah, écoute, ils sont en plein cœur de San Francisco. Ils sont pas installés dans la Silicon Valley à l'écart. Ils sont vraiment au cœur de la ville. Ils ont deux étages sur Market Street. Ils ont des bureaux, comme tu peux les imaginer, des bureaux à San Francisco, avec des canapés, des phone box, des salles de réunion en verre, des coussins Airtable.
Okay. Ils n'ont pas des trucs spéciaux, comme je ne sais pas, il paraît par exemple que chez Notion, tout le monde est en chaussons, des trucs comme ça.
Non, ils ont une cuisine qui est bien remplie de snacks, de fruits. Ils ont plein de boissons à disposition. Après, j'ai peut-être pas découvert les endroits secrets.
Ouais, peut-être. Ça n'a pas de rapport directement, mais j'ai une amie qui travaille chez Google, et quand j'étais à San Francisco il y a 3 ans, justement pour la NoCode Conf, elle m'avait emmené dans leurs bureaux qui sont dans San Francisco, pas ceux qui sont connus là. Je sais plus où, à Mountain View, je sais pas où, là, dans la vallée, justement. Et il y avait littéralement une pièce secrète où il fallait appuyer sur un espèce de cadre, et puis ça ouvrait une pièce où les gens se retrouvaient pour boire des coups, pour faire des trucs comme ça. C'était assez rigolo. Non, je sais même plus, il fallait badger, mais à un endroit qui était pas du tout apparent, quoi. Enfin,
ouais. Pas sur la carte.
Ouais. Donc, bon, voilà. Donc, effectivement, ça existe, ce genre de choses.
J'imagine bien.
Et alors, au niveau du contenu, les présentations, c'était des... Enfin, donc, il y avait des sponsors qui présentaient des choses, comme tu dis, Mike. Est-ce qu'il y avait des gens? Est-ce qu'il y a des choses, en tout cas, disons, toi, qu'est-ce que tu as retenu, tu vois, de ces 2 jours? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, en fait, quand même, en France, on connaît aussi un peu tout ça?
Il y avait un peu de « on connaît tout ça ». Mais il y a un outil que je connaissais pas moi qui s'appelle AeroPage, qu'il faut que j'exploite. J'avoue, j'ai essayé là il y a 2 jours, mais ça marchait pas bien. Je me demande s'ils sont pas en train de faire des changements, et j'ai pas abouti. Mais il y a eu des présentations d'usage de cet outil qui permet de faire un peu comme Page Designer, mais de renvoyer ton PDF dans ta base de données. Ce qui est quand même la base.
Ouais, ce qui est un gros manque, hein, du module Airtable, le Page Designer. Ça, c'est vraiment incroyable
Absolument.
Que ça ne passe toujours pas, ça, quoi.
AeroPage, ça permet aussi une connexion avec OpenAI. Donc ça, je n'ai pas pu tester encore. Ça te permet de faire des templates d'email aussi en HTML. Donc,
c'est voilà. Un peu un ensemble d'outils, c'est ça, hein, non? Parce que Eric l'avait utilisé dans le cercle des Ops, et j'avais cru voir, enfin voilà, que c'était un petit peu un ensemble d'outils, avec notamment ce gros truc là qui est intéressant là, que tu disais par rapport au Page Designer, mais avec d'autres petites choses, un peu à la mini extension, j'ai eu l'impression.
C'est ce que j'allais te dire, mais gratuit, voilà.
Ah ok.
Et le fondateur affirme que son outil a vocation à rester gratuit. Donc il y avait cet outil là.
Je mettrai les liens dans les notes, comme ça, pour les gens qui pourront aller tester. Et moi-même, il faudrait que j'aille tester, d'ailleurs.
Je me suis sentie à ma place. Donc voilà, c'était assez agréable. Alors, il y avait des superstars. Si tu suis un peu la communauté Airtable américaine, il y avait les grosses têtes d'affiche. je ne vais pas dire leur nom, ce serait bête, mais il y avait des gens comme ça assez présents et assez entourés.
Moi, tu peux les dire. Après, moi, j'avoue que je ne connais pas. Moi, le seul que je connais, c'est Garrett Pronovost, mais je sais, est-ce qu'il y était ou pas? Parce que j'ai cru comprendre qu'il était, il avait pris une autre direction.
Oui, alors ça, c'est rigolo. C'est quelque chose que j'ai entendu chez Airtable, que Garrett Pronovost a été racheté par Smartsuite. Ouais. Et donc, voilà, avait quitté un petit peu la team Airtable. Bon, après, si Smartsuite a une stratégie de payer les gens qui vendent son outil, pourquoi pas, hein?
Ouais, c'est les influenceurs, enfin, c'est classique dans d'autres mondes, mais c'est vrai que dans le no-code, on n'avait pas vu encore comme ça, parce que Garrett Pronovost, moi, c'est vraiment le seul que je connaissais, qui était la personne la plus visible, qui commentait toutes les nouveautés de Airtable. Il avait des tutos littéralement sur toutes les fonctions, etc. Et puis de passer complètement à un autre outil, je trouve ça assez étonnant, quoi.
Oui, il avait déjà commencé ça avec Softer, alors qu'il y avait les interfaces. Enfin, il avait déjà commencé à aller exploiter d'autres outils, hein, de toute façon. Mais bon, écoute, il a bien raison d'exploiter. Ouais.
Bon, après, c'est un business, hein, tout ça, hein, c'est sûr. Hein. Moi, j'étais assez étonné, dans un registre un peu similaire. Je me souviens d'une conférence que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec Shubham et Camille, qui sont tous les deux des ambassadeurs Notion. Et j'étais assez surpris que quand il y a, donc c'était dans l'émission Déclic d'Anthony, à un moment il a posé une question, je me souviens plus exactement ce que c'était, enfin sur l'avenir de Notion, et Camille et Shubham étaient assez, enfin n'étaient pas du tout à l'idée de passer sur un autre outil, enfin j'ai trouvé ça assez intéressant, tu vois, qu'ils soient ambassadeurs, mais en même temps, ils se sentaient pas du tout enfermés, alors que moi, j'ai un peu un espèce de truc de loyauté, alors que moi je suis pas ambassadeur, je veux dire exprès, je suis ambassadeur d'aucun outil, je suis juste expert Zapier, mais bon, c'est parce que surtout j'avais envie de faire le test, mais tu vois, je sais pas, je trouvais ça étonnant, tu vois, qu'ils étaient, très, s'il y a un outil, demain, si, enfin vraiment littéralement, il me semble que Shubham, il a dit, si demain il y a un outil qui est mieux que Notion, je passe dessus. Un peu peut-être comme la même réflexion que s'est dit. Alors, dans Garrett Pronovost, il y a en plus le côté qu'il est payé pour passer sur cet autre outil qui est Smartsuite. Mais moi, je sais pas, j'aime bien le côté loyauté. Enfin, moi, je suis assez fan d'Airtable.
Loyauté, il faut dire aussi que Airtable n'est pas très affectueux.
Alors, ça, c'est un vrai point. Ouais.
Donc, ça, c'est pas négligeable. Voilà. Des outils qui se créent pour travailler avec Airtable, améliorer l'expérience avec Airtable, il y en a plein. Hein. Je peux te donner l'exemple de Fillout, par exemple. Mais ils n'ont pas de contact avec Airtable. Il n'y a pas de lien qui est créé avec les autres outils, comme il n'y a pas de lien avec... je ne sais pas, il faudrait en parler avec Julien Mottet. Est-ce que Julien Mottet se sent aimé par Airtable? Pas forcément à voir, mais...
Bah, il a dû se faire imprimer lui-même ses propres suites, donc déjà c'est un signe, c'est pas... Enfin, ça montre quelque part, je sais pas ce que ça montre d'ailleurs, mais je trouve ça un peu étrange de se faire imprimer des trucs d'une autre marque, mais c'est qu'il est fan, mais en même temps, c'est vrai que ça va un peu à sens unique. Après, je sais pas, peut-être qu'il a eu d'autres choses. Je crois que Noam a un peu des liens avec Airtable, tu vois, je sais pas trop. Ouais. C'est vrai que nous, on a zéro lien, et ils s'en foutent, mais moi, bon...
Bon, après, tu sais, il y a des fans de Bob Marley, voilà, il porte un t-shirt Bob Marley. Il exprime son affection, c'est bien. Mais alors, je n'allais pas le dire, mais moi, j'en ai chopé un vrai sweatshirt Airtable chez eux. Donc, voilà.
Ah oui, non, mais ça, je peux comprendre. Je veux dire, je ne vois pas le problème d'acheter un vrai sweat, ou même, enfin, qu'il le donne, c'est mieux, ou si de l'acheter, c'est autre chose. Mais non, mais je ne sais pas. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis assez d'accord. Après, par contre, je ne dirais pas que Airtable maltraite ses employés. Enfin, ce n'est pas ses employés, j'en sais rien. Je veux dire, ses utilisateurs, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a, par exemple, alors je vais me mouiller un peu, mais je vais dire, je trouve que, par exemple, Bubble ne traite pas très bien ses utilisateurs, malgré qu'ils soient hyper fans, quoi. Tu vois, mais bon, finalement, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais il y a eu quand même plusieurs faux pas, plusieurs choses où j'ai trouvé quand même que la communication ou le fait que, voilà, des fois, Emmanuel soit un peu froid, etc. Alors après, je dis ça, il était à la No Code House. Là, il y est allé par surprise et il les a tous surpris. Donc, c'était quand même un geste super humain. Donc, voilà, des fois, on a une lecture. Mais c'est vrai que moi, je trouve que, par exemple, Bubble, à une époque, en tout cas, peut-être que ça change, la communauté n'était pas très bien traitée, alors que les gens étaient hyper fans. Donc, Airtable, ça me choque pas tant que ça, tu vois. Mais peut-être que j'attends pas grand-chose d'eux non plus, quoi.
Oui, ben, écoute, quand on y était, donc ils ont fait une intervention et ils ont bien soulevé qu'ils avaient un problème avec cette communauté parce que leur outil de gestion de la communauté Airtable a changé récemment et ça fait un tollé. Personne ne s'y retrouve. Et donc, la communauté Airtable a quitté l'outil pour aller sur une autre communauté bande à part.
Alternative, ouais. D'ailleurs, c'était très intéressant ce move. Mais en fait, c'est marrant parce que, alors, je ne sais pas si tu vas partager mon constat, mais j'ai l'impression que le fait que nous, en France, on a déjà cette énorme communauté qui est NoCode France, fait que moi, je vais jamais, peut-être que je devrais, hein, d'ailleurs, c'est un tort, mais je vais jamais sur les espaces communautaires des outils, pourtant les outils auxquels on forme, tu vois. Enfin, mais en fait, juste, j'ai pas le temps, en fait, il y a déjà tout qui se passe sur NoCode France, quoi, en français en plus, donc c'est plus facile, même si j'ai pas forcément de problème avec l'anglais, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps et j'ai jamais ressenti vraiment ce besoin. Est-ce que toi, tu vas un peu sur les community forums là, enfin de Make ou de Airtable justement.
De temps en temps quand l'envie m'en prend, mais pas trop. Je suis inscrite sur différents forums, sur d'autres Slack, mais il y a tellement de choses et tu l'as dit, il y a déjà tellement de choses sur NoCode France que c'est un peu compliqué d'être partout quoi. Mais je trouve ça intéressant parce que je te parlais tout à l'heure des superstars Airtable, par exemple, tu me demandais des noms, il y a Qvon, alors on l'entend jamais à l'oral, on le lit tout le temps, alors, donc c'est Qvon avec un K, qui elle a fait des scripts dans Airtable, par exemple elle a fait aussi une appli dans Airtable qui te permet de faire une formule pour les préfields form. Tu rentres les quelques paramètres et son appli te permet d'obtenir la bonne URL. Voilà, elle a fait donc des trucs assez balèzes et elle est assez impressionnante. C'est marrant parce que c'est des filles, il y en a une autre, c'est Camille, et elle est assez balèze aussi sur les formules. Et elle a fait aussi quelques scripts. Donc voilà pour les noms des stars, elles étaient là.
Ok, non mais c'est chouette, non mais c'est vrai que du coup moi comme je suis un peu à l'écart, je connais pas du tout, mais genre j'aurais bien aimé, moi j'avais pas du tout entendu parler de cet événement, je regrette, je sais pas si j'y serais allé parce que bon, je vais pas forcément prendre l'avion juste pour ça, mais ce serait intéressant, et parce que il me semble que pas longtemps avant, il y avait un autre événement, je sais pas si tu l'as vu passer, qui était le Leader Forum, un truc comme ça, là qui était pour le coup organisé par Airtable, qui était un truc beaucoup plus corporate. Est-ce que tu as vu ça?
Je crois que c'était à New York. Oui, ouais. Alors je ne sais pas si c'était pas avec des gros clients comme Femec parfois aussi,
ouais.
De réunir quelques clients clés ou acteurs clés.
Ouais, des grosses agences, je crois que Francis d'Allegria y était par exemple, sans avoir vu une photo sur Twitter.
Voilà, donc mais là je pense que c'était plus un événement sur invitation.
D'accord. Enfin, j'ai l'impression que moi, en tout cas, ça pour le coup, même si j'avais été au courant, j'y serais pas allé. De toute façon, c'était sur invitation, comme tu dis. Mais ça m'a pas manqué, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est pas là. Là, c'est le genre d'événement où t'entends juste leur discours. Ils te donnent leur discours commercial, leur truc. Mais voilà, alors que dans les communautés, justement, avec des experts, des expertes, comme tu disais, là, je pense que là, tu peux avoir de la valeur, quoi.
Ouais. Après, ils nous ont dit des petits trucs, mais je sais plus ce qui est officiel de ce qui est doit pas être dit. Ouais. En tout cas, ils nous ont dit par exemple que les interfaces allaient être disponibles sur la version mobile.
Ok.
Ça, je sais plus s'ils l'ont annoncé. L'arrivée de l'IA, bien sûr.
Ouais, ça, ils en ont un petit peu parlé.
En fait, ils ont trois points clés sur leur roadmap. C'est de faire d'Airtable un outil qui fasse vraiment des apps. Donc, améliorer ce côté interface. Donc, sur les interfaces vont arriver les apps, ce qu'on appelait avant les blocs. Ils ont changé de nom.
Ouais, les extensions, ça s'appelle.
Les extensions, ouais. Voilà.
C'était les blocs, c'est devenu les apps, et puis c'est maintenant les extensions. Ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, les apps, maintenant, ils voudraient bien que ce soit des vraies apps. Ils ont, deuxième point, l'IA. Par exemple, tweeter automatiquement des chiffres de vente, ou j'en sais rien, ou des chiffres de stock, ou calculer des promotions, tout ça, tu pourras le faire avec un prompt. Et le troisième point, c'est la sécurité de la data, dans le sens synchronisation dans les deux sens, data vérifiée. Alors, ils ne nous ont pas donné des détails sur comment, mais en tout cas, c'est les trois points, IA, data et app.
Ouais, ce truc de data, ça, ils en ont déjà pas mal parlé. Justement, ils en ont parlé au Leader Forum aussi. C'est vachement le truc de gouvernance, mais c'est très... déjà, il y a genre le two-way sync, donc la synchronisation des deux sens, c'est réservé aux entreprises. Ça, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont... peut-être qui, après, viendront sur les plans, mais il y a beaucoup de choses qui sont très entreprises. Et c'est vrai que c'est logique, cette question de la gouvernance des données, notamment des trucs de vérité, etc. C'est par exemple pour dire, enfin, de ce que j'ai compris, hein, genre les équipes marketing, par exemple, elles sont maîtres de la donnée qui concerne le marketing et elles peuvent mettre à disposition des autres équipes, mais les autres équipes ne peuvent pas modifier. Et il y a des choses comme ça, vraiment une granularité dans les droits et un truc un peu de, comme tu le disais au début, hein, cette source de vérité unique que doit être Airtable. Mais ensuite, à l'intérieur, bah, dans les entreprises, c'est un peu segmenté et avoir une gouvernance qui soit claire et que puis elle puisse être partagée suivant les données, quoi.
Oui, alors pour ce qui est des fonctionnalités entreprises, ils nous ont dit qu'ils allaient quand même améliorer les plans précédents. Voilà, okay. Ils vont rajouter des fonctionnalités, ils ne nous ont pas dit lesquelles, ni donné de timing, mais ils vont améliorer ça.
Ok, bon, ça, après c'est normal, hein. Moi ça ne me choque pas, hein. C'est des fonctionnalités qui sont quand même plutôt intéressantes pour les entreprises, que d'abord elles soient déployées là-bas et puis après... ça aussi un business en hein, tout ça. Donc,
Par exemple, les dépendances. Ouais. Ça, c'est un truc que je trouve indispensable pour tous les plans, de pouvoir voir la dépendance dans tes champs.
C'est vrai. Le fait qu'un champ dépende d'un autre, et c'est vrai que ça apparaît d'ailleurs dans le panneau, là, ce nouveau panneau qui est à droite. Mais quand tu n'es pas en entreprise, tu ne peux pas cliquer dessus, il me semble, un truc comme ça. Enfin... mais après, c'est vrai que c'est très intéressant. Après, c'est vraiment utile dans des contextes un peu volumineux, quoi. Je pense qu'il y a plein de boîtes, de petites boîtes qui peuvent faire sans, quoi.
Ouais. Donc, voilà ce que nous a dit Airtable. Alors, après, on a signé un NDA.
Hein, OK.
Un accord.
Tu viens de rompre allègrement. Je présente. Non, mais là, il y a une partie des choses que tu as dit, en tout cas, qui était déjà...
Oui, je crois que j'ai rien dit de... Et pas le droit de filmer non plus les locaux, à part les lieux de ouais, l'événement.
Ça, c'est étonnant, d'ailleurs.
Oui, alors on peut imaginer que la visite ne doit pas se transformer en visite de zoo.
Ouais. Tu vois, et que, c'est vrai, pour les gens, c'est vrai que c'est...
Pour les gens qui travaillent.
Coup, ouais. C'est vrai, t'as raison.
Par respect pour... voilà, pour eux, je pense que c'est mieux. Et puis, donc, c'était 2 jours de conférence où, au-delà de ce que nous a dit Airtable, il y avait des gens qui venaient présenter des use cases, des choses qu'ils ont développées. À la pause déj, tu mangeais avec quelqu'un, tout de suite, il te montrait la base qu'il a développée pour organiser son mariage. Donc, c'était vraiment que du Airtable. Et moi, j'ai eu l'occasion de présenter une interface que j'ai développée. Voilà, donc c'était marrant de faire ça.
Est-ce que tu as trouvé que c'était facile de rencontrer les gens? Enfin, je pense que t'es assez, toi en tout cas personnellement, t'es assez à l'aise, j'ai l'impression, enfin, pour aller vers les gens, mais est-ce que c'était facile? Est-ce que même, tu vois, est-ce que les autres personnes se rencontraient facilement? Tu vois, je suis assez curieux de ça, tu vois, si les gens étaient plutôt introvertis ou s'il y avait des efforts qui étaient faits pour que les gens se parlent.
Non, c'était difficile pour moi, à titre personnel, d'aller vers les gens, surtout ces têtes d'affiche dont je t'ai parlé. J'avais prévu pour mon voyage de les filmer et de les interviewer. Et pendant un peu 3 jours, pendant 2 jours, pardon, je leur ai un peu couru après pour que ça se passe. Et ça ne s'est pas passé pour toutes. Elles m'ont dit oui, mais finalement, bon, ça ne s'est pas réalisé. Mmh. Ouais. Donc, je ne sais pas, j'étais peut-être comme une bête curieuse. Mais non, ce n'était pas facile d'aller vers les gens. Mais c'était le but de mon voyage, donc il a fallu aussi que je me fasse violence.
Oui, parce qu'on l'a pas dit encore, mais en fait l'idée c'était aussi de faire des interviews, de documenter un peu tout ça, ce que tu as fait d'ailleurs. On a hâte d'ailleurs de voir un petit peu ce que tu feras de tout ce contenu.
Moi aussi.
Et ouais, bon courage, parce que j'imagine que traiter tous ces rushs et tout ça, c'est pas évident.
Ouais.
Mais du coup, justement, ouais, parle-nous un petit peu des gens que tu as rencontrés. Alors peut-être hors éditeur pour l'instant, peut-être après on parlera des gens un peu plus enfin en même temps, bon, les gens ils sont à la fois pas que l'éditeur chez qui ils travaillent, mais je sais pas, voilà, si tu veux nous dire un petit peu les jolies rencontres que t'as fait, quoi.
Oh bah, il y en a plein. Je vais commencer par Christian, parce que ça a été mon premier rendez-vous. Christian Beverelli à Los Angeles, lui il a installé depuis quelques années là-bas. Et il y a un an et demi avec 20 dollars de budget et un ordinateur et un cofondateur, je crois. Il a décidé de développer We Are No Code. Et son idée, c'est d'aider des porteurs de projets à développer leur MVP en leur donnant des conseils parce qu'il a une grande expérience dans les accélérateurs et l'accompagnement d'entrepreneurs. Mais aussi, il est dans le no-code et donc il les aide à faire leur MVP en no-code. Donc, il a accompagné plus de 500 boîtes en un an et demi.
Ouais, c'est un peu un forcené. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais je l'avais interviewé aussi il y a quelques temps dans le podcast. Donc, n'hésitez pas pour les auditeurs à aller écouter. Toi, à titre, on va dire, un peu plus humain, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, c'est un peu chelou comme question, hein, d'ailleurs, mais je veux dire, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Pas évidemment comme un jugement, mais tu vois, par rapport aussi au fait qu'il soit là-bas. Alors, sachant qu'il parle français, il est d'origine suisse, mais il a vécu aussi à Paris, je crois, enfin, donc il parle très bien français. Mais tu vois, un peu quel a été ton sentiment, tu vois, peut-être par rapport aux rencontres justement que tu peux faire en France. Est-ce que tu as trouvé que c'était pareil ou est-ce que c'était différent? Est-ce que.
Bah déjà, Christian, il a été très accueillant. Il m'a accordé beaucoup de temps. C'est la personne avec qui j'ai passé plus de temps, je pense, dans mon voyage. Il a été très généreux parce que lui, il produit aussi du contenu YouTube. Donc, il a du matériel, il a une expérience qu'il m'a partagée. Donc, il était très ouvert. Puis, d'un autre côté, je le trouvais aussi très isolé parce qu'il est en banlieue de Los Angeles, donc quoi qui est tout à fait chouette.
C'est de
Mais
la plage, hein, c'est ça, non?
oui, voilà, Torrance.
Ouais.
Mais pas dans une communauté où l'échelle aussi est différente. Là, je suis arrivée, moi, je suis à Nantes, donc je suis dans mon petit patelin. Et lui, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était très isolé parce que, par exemple, son associé est au Brésil. Voilà, donc il travaille à la maison, etc. Il participe plus trop à l'événementiel depuis le Covid. Voilà, il a plus trop d'événements présentiels. Donc j'ai trouvé assez isolé, mais quand même hyper connecté parce que il a accompagné plus de
Très en
500
ligne.
personnes. Ouais, très en ligne. Ouais, très très actif. Donc bah, j'ai trouvé super. Avec une mentalité internationale, tu l'as dit, il a vécu dans beaucoup d'endroits, en Amérique du Sud aussi. Donc très ouvert d'esprit, très accueillant. Donc, c'était une super rencontre. Après, tu veux pas que je parle des éditeurs, mais rencontrer Phil Out, c'était super.
Ça, c'était à San Francisco, du coup.
Oui, c'était à San Francisco. Ils
Donc,
sont.
Fill Out, pour les gens qui connaîtraient pas, hein, c'est un outil de formulaire qui est en train de. Enfin, s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas connectés sur LinkedIn ou quoi, parce que j'ai l'impression que Fill Out revient tout le temps maintenant et a raison. Hein. Mais dis-nous-en un peu plus, toi, pourquoi tu avais envie de les rencontrer?
Parce que quand j'organisais mon voyage, j'ai eu l'occasion d'utiliser Fillout sur un projet pour lequel je trouvais pas d'outils qui répondaient à enfin, mon besoin. Je trouvais pas d'autres solutions et Fillout a répondu à ça. Et comme je découvrais l'outil et que j'étais sur un cas réel client, bah, j'avais des galères et tout de suite Dominique, un des cofondateurs, me répondait ou Anthony, l'autre, me répondait, m'ont aidé, donc ils étaient très présents et je leur étais très reconnaissante. Et évidemment, comme il était à San Francisco, j'ai dit bah je vais venir te rencontrer quoi. Et
Super. Et il a accepté tout de suite, ils sont accessibles. Enfin, bon, déjà, s'ils répondent déjà eux-mêmes à leur message, c'est qu'ils sont.
alors, très, très, oui, très, très accessible. Faut dire que Fillout, tu l'as dit, ça explose. C'est deux cofondateurs et deux personnes qui sont en cours de recrutement ou recrutées pour les aider à répondre justement au cas client, aux questions
Et c'est les
des
deux
utilisateurs.
cofondateurs qui dev le produit?
Oui.
Donc ils ont commencé, ils étaient que deux, quoi.
Ils étaient que deux. 26 ans pour celui que j'ai rencontré, celui qui est à San Francisco, c'est Dominique. Anthony est à New York, donc je ne l'ai pas rencontré.
D'accord.
Et les deux se sont rencontrés, je crois, pendant leurs études. Ils ont développé une première boîte qui a été rachetée par Retool. Et donc, ils ont intégré Retool. Et ensuite, ils ont eu une autre idée, donc Fill Out, et ils sont partis il y a un an et demi pour créer Fill Out.
Des gens assez brillants, j'imagine.
Extrêmement brillants. 26 ans, déjà une boîte revendue. Celle-là qui cartonne.
Est-ce qu'ils t'ont dit un petit peu, juste par curiosité, est-ce qu'ils comptent bootstrapper ou lever des fonds? Est-ce qu'ils ont un petit peu levé des fonds? Enfin, c'est quoi un peu? Tu me diras, bon, s'ils ont vendu une boîte, c'est qu'ils doivent avoir un petit peu d'argent aussi, mais... Je sais pas, peut-être que vous avez pas parlé de ça, mais je suis toujours curieux, tu vois, parce qu'on a l'exemple dans le même registre de Tally, qui sont en mode bootstrappé, c'est un couple. Enfin, moi, j'adore leur histoire aussi, puis je les adore, eux. Et là, je me demande si eux, Fillout, c'est peut-être plus le pendant un peu américain, quand même un peu start-up. On va essayer de devenir gros ou pas?
J'ai posé la question, effectivement, d'investisseurs, et c'est un sujet qu'ils évoquaient pas pour le moment. Voilà. Donc, je peux pas. Pas trop en dire plus, mais en tout cas, je les vois bien serial entrepreneurs, ils ont déjà deux succès, peut-être que c'est une boîte qui peut rapidement tourner bien comme elle est, ils font évoluer l'outil toutes les semaines, donc je pense qu'à un moment ça va peut-être se calmer et ils vont peut-être pouvoir développer d'autres idées. Je pense qu'ils ont tout à fait
Et avoir ce profil-là qui tourne et puis faire autre chose. Moi, j'aime bien aussi cette idée. En plus, c'est plus un peu les histoires un peu bootstrappées. Et puis, des mecs qui ont comme ça plusieurs produits qui sont intéressants, qui font quelque chose et qui le font très bien.
Voilà. Donc, ils ont juste 26 ans. Donc, l'avenir est à eux.
Ouais, c'est clair.
Donc, ça, c'était une belle rencontre parce que c'est une personne très humble, très... effacé presque, alors que tu vois, ça pourrait être... Je m'imaginais rencontrer un entrepreneur à l'américaine, à la San Francisco, les mains dans les poches, etc. C'était, voilà, une autre culture. Donc, très intéressant. Après, j'ai rencontré... j'ai pas expliqué les étapes. Première étape, Los Angeles. Ensuite, San Francisco. Ensuite, je suis partie à Montréal où j'ai rencontré Ben, qui fait les portraits du no-code, un podcast.
Une petite dédicace.
No-code France. Donc bah là, j'ai une interview avec lui que j'espère diffuser. Et il arrive bientôt.
C'est lui qui interviewe les gens d'habitude, donc c'est chouette aussi que lui soit interviewé.
Je trouvais ça rigolo d'inverser. Et en plus, il m'a appris qu'il a emménagé à Nantes bientôt.
Bientôt.
Où je suis, donc c'est assez rigolo. Après ça, à Québec, j'ai participé à un autre événement qui s'appelle le Web à Québec, qui est un petit Web Today, où là, j'ai interviewé des no-codeurs. Ensuite, dernière étape, New York, où je suis allée rencontrer Aaron chez Webflow. Alors, Aaron Corenbilt, si je ne me trompe pas, qui travaillait avant chez Airtable et qui s'occupe maintenant de produire du contenu pour éducatif sur Webflow. Et j'ai terminé chez Bubble.
Et c'était comment? Alors, attends, juste pas, parce que moi, je rêve, on va dire, entre guillemets, de rencontrer Aaron un jour. J'espère que j'aurai l'occasion. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez passionnant. Comment c'était la rencontre avec lui? J'imagine, il me fait l'impression d'être quelqu'un d'assez accessible aussi. Je sais pas, enfin...
Oui, très, très accessible. Quand je lui ai proposé cette rencontre, il a accepté tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui est très pris. Qui a un agenda de ministre. Donc, je sais qu'il a été invité, par exemple, à venir au Web Today, mais il a toujours décliné parce que c'était pour lui des jours en moins sur ses jours de travail. Donc, compliqué pour lui de venir jusqu'en Europe.
Ça a l'air d'être un peu un forcené du travail, hein, quand même. Il fait beaucoup de choses en même temps.
Ouais.
Il fait beaucoup de contenu, qui est d'ailleurs de très grande qualité. Un job à plein temps quand même chez Webflow, ça doit quand même aussi être prenant. C'est assez étonnant. Moi, je suis assez impressionné. Alors après, des fois, je me dis, ce genre de personne travaille un peu trop aussi. Mais bon, s'il a quand même trouvé le temps de te rencontrer. Parce que moi, j'ai mis des mois avant de pouvoir l'avoir sur le podcast. J'ai eu
le temps. D'accord. Ouais. Écoute, j'ai eu plus de chance ou j'ai utilisé plus d'émojis dans mes emails peut-être. Je sais pas. Mais alors je lui ai demandé un peu son parcours dans le no-code. J'étais surprise parce que finalement il y est depuis plus récemment que moi, si on fait les comptes. Et je lui ai demandé aussi sa vision du développement des outils no-code. Donc voilà, j'espère aussi monter cette interview et pouvoir la partager.
Ouais, on a hâte de ça. Et alors du coup, ta dernière étape, je t'ai coupé, donc c'était chez Bubble. Ou là, oui. Tu as eu l'occasion de rencontrer les gens qui s'occupent de la communauté, c'est ça? Est-ce que tu as croisé Emmanuel aussi ou non?
Non, parce qu'il était en France,
en France
au moment où j'étais à New York, donc c'était pas de chance. Mais j'ai rencontré donc Théo, qui s'occupe de la communauté, et puis Nick, qui est lui sur le développement de l'outil. Donc c'était assez intéressant parce qu'il a expliqué la roadmap de Bubble, voilà, sur quoi son équipe travaillait et vers quoi l'outil allait en fait. Et puis c'était marrant de finir chez Bubble puisque moi, dans quelques mois, je vais commencer le bootcamp d'auto pour faire Dev Bubble. Voilà, pour mettre une carte de plus à mon jeu. Donc c'était une belle transition pour moi pour terminer.
Tu feras des jaloux, à mon avis, dans le bootcamp. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, voire personne en France qui a eu l'occasion d'aller dans les bureaux de Bubble à New York. C'est
Mais
quand même la classe.
j'espère bien, mais j'ai pas eu de sweet bubble, là,
Ah ouais.
malheureusement.
Là, c'est tous les gens qui sont à la Bubble House qu'a organisé Sarah, qui est d'ailleurs ma prochaine invitée dans le podcast. J'ai vu, ils ont été refaits de merchandising, de t-shirts, de casquettes, de choses comme ça. Enfin, je vois de loin sur Twitter, elle me racontera ça la semaine prochaine, justement.
Oh, mais moi, je mérite pas encore, je suis pas encore une bubbleuse.
Ça viendra, tu y retourneras. Quelques petites questions pour terminer. Déjà, juste, alors là, c'est plus une question même hors no code, mais c'est quoi les villes qui. Je sais pas si tu étais déjà allé dans certaines de ces villes, mais tu vois, là, tu nous as cité quand même, donc, si je dis pas de bêtises, cinq grandes métropoles d'Amérique du Nord. Lesquelles t'as plus plu? Enfin, ça a été quoi un petit peu tes sensations par rapport à ces villes?
J'étais déjà allée dans chacune de ces villes parce qu'avant j'ai eu une carrière internationale où je me déplaçais beaucoup sur les lieux de start-up parce que mon travail c'était d'aller chercher des entrepreneurs innovants pour qu'ils viennent développer leur boîte en France. Imagine le boulot. Donc j'étais déjà allée à Los Angeles, à San Francisco, New York et Montréal et Québec. J'étais allée plus avec des entrepreneurs nantais pour qu'ils aillent se développer sur le marché nord-américain. Donc je connaissais toutes ces villes, mais elles sont toutes vraiment différentes. Et je me suis vraiment beaucoup posé la question pendant ce voyage, mais quelle ville tu préfères? Enfin, est-ce que tu as d'aller plus là alors que tu es là? C'est difficile, hein. Los Angeles, je l'avais exploité que du côté professionnel, donc j'avais pas fait le côté fun. Et là, je m'en suis pas privée cette fois. Et ouais, c'était fun. Donc j'y retournerai bien pour le côté fun. San Francisco, j'adore parce que c'est le côté entrepreneuriat, l'innovation. J'ai baigné beaucoup là-dedans dans le milieu des entreprises innovantes. Donc je retournais un petit peu dans mon bain. Ça grouille, t'as les grosses universités, tu sens qu'il y a de la matière grise, peut-être un peu moins à Los Angeles, sauf Christian. Au Canada, ben c'est les cousins quoi, c'est proche de chez nous, c'est agréable. Si je devais partir vivre en Amérique du Nord, certainement je m'installerais au Québec. Et puis New York, t'es dans les films, t'entends une sirène de pompiers, tu vois, t'es tout de suite dans un film ou dans une série. Donc toutes ces villes ont leur charme, mais tu es quand même content de rentrer au bout de 3 semaines pour la bouffe. Parce qu'il y a un problème avec ça. On n'a pas les mêmes produits, c'est sûr, parce qu'on n'arrive pas du tout au même résultat. Donc
Pas la même culture aussi culinaire, la même histoire,
ouais.
etc. Et effectivement, pas les mêmes produits.
Mais toutes ces villes sont mythiques de toute façon. Et c'est j'ai plein de souvenirs, de rencontres, de lieux. Voilà, c'est gravé pour longtemps.
Ok, bah écoute, super intéressant. Et alors, si je devais finir un petit peu justement avec tous ces échanges que tu as eus avec des no-codeurs et des no-codeuses, voilà, qui sont vraiment plein dedans et qui sont justement de l'autre côté de l'océan, qu'est-ce que toi, ça te donne un petit peu comme perspective, tu vois, sur l'avenir? En fait, j'ai deux questions, mais peut-être je vais commencer par celle-là. Je vais essayer de pas poser plusieurs questions en même temps, comme je fais des fois. Voilà. Mais tu vois, un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que t'en as retenu? Qu'est-ce que ça t'a fait dire, tu vois? Est-ce que t'as eu des conclusions par rapport à ça?
Bah, ça m'a fait dire que j'étais bien à ma place déjà dans le no-code, que ça confirmait que vraiment c'était un truc qui continuait à m'exciter, qui est still amazing, tu vois, dans mes yeux, puisque toutes ces conversations, je pense, j'avais les étoiles dans les yeux, c'est vraiment un sujet qui me plaît, donc ça me conforte dans ce choix. Après, pour comparer les communautés, je me dis que la France est bien en place, qu'on exploite bien tous les outils, qu'on a une communauté qui est très active, qui produit beaucoup de contenu, qui est solidaire. Je dis pas que ça existe pas là-bas, mais en tout cas, on n'a pas à rougir de ce qu'on a chez nous. Et même sur l'exemple de mec que je te donnais, je pense qu'on a peut-être une petite longueur d'avance parce que certainement qu'on joue encore plus avec les API que eux. Donc,
Bon, en termes de... Ouais. Bah justement, c'est intéressant, tu vois, c'est un peu ma question suivante, tu vois, c'est quoi la différence que tu ferais, alors c'est pas évident, hein, ça, t'as pas forcément fait une étude sociologique, tu vois, mais des gens que t'as rencontrés, tu vois, un petit peu les différences que tu ferais entre ces no-codeurs et ces no-codeuses nord-américains, et puis nous, en France, tu vois, j'ai pas envie de dire forcément nord, mais en France, en tout cas, les gens que tu connais, tu vois, est-ce que... le fait qu'on utilise des outils différents nous donne plus de technicité, moins de technicité, moins de vision, plus de vision, tu vois, je sais pas.
Bah, je pense que oui, ça nous donne plus de vision. Et puis finalement, on arrive à mieux comprendre l'outil idéal pour notre projet puisqu'on en connaît plein des outils. Donc, on sait mieux où aller piocher. Peut-être que quand tu connais pas Mec et que tu utilises que Zapier, bien... Il y a des cas d'usage où tu t'arrêtes parce que tu vas pas avoir la solution dans l'outil, j'imagine. Donc, bah, nous, comme on est plus polyvalent, on va être capable de faire certainement plus de choses. Et comme en plus on a une communauté qui partage beaucoup, bah, ces cas d'usage se répandent et donnent de nouvelles idées, etc., etc. Donc, je pense qu'on est dans un cercle vertueux.
Ok, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert, enfin tu vois, au-delà des outils, mais je sais pas même dans... Est-ce que tu as trouvé par exemple qui est... Je sais pas moyen, tu vois, si je regardais un petit peu les défauts que je vois ici dans la communauté no-code, tu vois, on est un peu au début, par exemple, je trouve des bonnes pratiques dans le no-code, la documentation, tout ça, il y a quand même pas mal de choses. Même sur le métier de... Le fait d'être freelance, l'accompagnement, il y a quand même beaucoup de no-codeurs et no-codeuses qui débutent, à qui je trouve il manque des bases, tu vois, de comment on prend un brief, comment on accompagne un freelance, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que eux, tu t'as trouvé qui... Bon, c'est peut-être difficile, hein, t'as pas forcément eu ce prisme, mais tu vois ce que je veux dire?
Oui, alors je crois que Gareth Pronovost, encore une fois, fait ce genre d'accompagnement maintenant. Il propose d'accompagner les freelances.
Ok.
Mais non, j'ai pas découvert plus de contenu que ça. Je pense que la communauté no-code sur un channel Slack, pas la communauté no-code, parce que j'ai plus trouvé des communautés par outils que de communautés généralistes US. Voilà, après, j'ai pas tout découvert. Hein.
Non, mais toi, t'aurais sûrement entendu parler de choses qui existeraient. C'est vrai que c'est intéressant, ça, tu vois, parce que, par exemple, typiquement, je suppose, et tu vas me dire si t'es d'accord. Attends, pardon, je vais tousser d'abord. Que le fait que nous on a une communauté transverse, ça fait que par exemple on a des tables rondes sur des sujets transverses comme par exemple la gestion de projet ou la facturation ou des choses comme ça quoi. Alors que eux, vu qu'ils sont un peu enfermés par outils, du coup peut-être que justement ils abordent pas ces sujets là et nous ça nous enrichit vachement quoi. Moi je trouve que tu vois les constats que je fais où je me dis bah tiens c'est dommage dans la communauté on parle pas ci à ça, bah il y a plein de contenu qui est créé ensuite, enfin parce qu'on est plusieurs à faire ce constat, et puis quelqu'un va organiser une table ronde, quelqu'un va faire venir un intervenant, et on s'enrichit vachement de ça. Peut-être que ça, effectivement, ça leur manque un peu.
Ouais, mais alors, il faut vraiment travailler sur la mémoire de tout ce contenu qui est dans Slack et qui disparaît au fur et à mesure, parce que c'est vrai que c'est un contenu extrêmement riche.
Il y a un projet qui est en cours. Il y a un projet qui est en cours, qui est mené par Pierre, qui a un très beau projet justement d'archivage des threads qui ont de la valeur. Et puis on a aussi, alors c'est sûr qu'on pourrait vachement s'améliorer, hein, c'est d'ailleurs je pense une des missions de l'association No-Code France, mais on a aussi notre chaîne YouTube où il y a pas mal de replays, enfin il y a aussi pas mal de contenu qui est des fois un peu diffusé, mais j'ai assez bon espoir que ce projet un petit peu global d'avoir toutes ces ressources, tout ce contenu. Il y a aussi évidemment le travail extraordinaire de Julien sur la veille aussi. Donc on a comme ça quelques trucs où on a effectivement beaucoup de connaissances et on peut encore plus les archiver, quoi.
Bah, au cours de mes rencontres, évidemment, je manquais pas de dire que je venais de France et qu'en France, on avait une communauté de plus de 10 000 personnes sur un Slack No Code France. Donc ça impressionnait pas mal, puisque bon, ils s'imaginent bien qu'on est un tout petit pays. Mmh. Et puis alors quand je disais qu'il y avait un syndicat des professionnels du no-code, alors là c'était l'apothéose et ils nous prenaient un peu pour des fous, quoi.
Après c'est intéressant, je me demande si eux leur appréhension du syndicat, enfin aux États-Unis notamment, les syndicats ça a quand même un rôle très particulier, quoi. Et donc je sais pas s'ils ont, parce que le syndicat des professionnels du no-code, c'est pas du tout un syndicat genre force ouvrière, etc., quoi.
Surtout qu'on était en plein dans le contexte des grèves pour la lutte contre la nouvelle loi retraite. Donc, ils avaient effectivement fait ce lien entre est-ce que les syndicats no code français vont retourner le pays. J'aurais expliqué que c'était un peu différent, mais ouais. C'était
peut-être
marrant.
Qu'un jour, on aura un syndicat des travailleurs du no code qui serait différent du SFPN, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais oui, c'est intéressant. Oui, bah ça m'étonne pas, ça les fastiquait, c'est drôle. Ouais. Écoute, c'est hyper intéressant. Non, franchement, c'est quand même un des trucs qui était chouette avec le No Code Summit. Il faut bien le reconnaître, ça, c'est que le fait que ça ait lieu en anglais et tout, ça permet d'avoir des gens un peu partout qui viennent. Et c'est vrai qu'on a entendu que l'année dernière, déjà, il y avait pas mal d'éditeurs qui avaient été bluffés par le dynamisme et la taille de la communauté en France. Donc, ça a été une belle exposition de tout ça. Et je pense que l'année prochaine, enfin, cette année, du coup, la prochaine édition, qui aura lieu en plus à Station F, donc c'est un lieu un petit peu phare de la scène tech en France ou à Paris, en tout cas, devrait encore contribuer à ça, quoi. Et donc, ça, c'est vrai que c'est. Je dois reconnaître que malgré que je vois aussi beaucoup de problèmes au SFPN et au No Code Summit, ça fait vraiment rayonner la France, ça contribue en tout cas auprès des éditeurs, ça donne de la crédibilité parce que tu vois, toi tu vas comme ambassadrice justement aux États-Unis et tu parles de la communauté française, mais aussi de pouvoir les faire venir eux, ça aussi les impacte, quoi, dans tous les sens, quoi.
Bah écoute, j'ai essayé de planter des graines, hein. J'ai parlé du No Code Summit et notamment Dominique de Fill Out était intéressé pour venir, donc j'espère qu'il pourra venir présenter Fill Out au Summit, des gens à Québec aussi, voilà, donc j'ai essayé de dire qu'on avait un bel événement qui va être encore plus grand cette année et qui est un événement international. Donc, faudra y venir à Paris.
Ouais, non, c'est chouette. Tu vas connaître tout le monde. Tu vas voir tous les gens, tous ces internationaux que tu as croisés qui vont venir te voir.
Bah écoute, voilà, hein, c'était le but de mon voyage, devenir la star internationale.
Bah écoute, c'est cool. Non, moi, je crois vachement à faire des contacts et tout. Enfin, j'essaye aussi de rencontrer des gens un peu partout parce que je trouve que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Nous, on a la chance d'avoir cette communauté. Mais aussi, c'est bien de voir un peu comment ça se passe ailleurs, quoi.
Oui, déjà, tu sais, je travaille derrière trois écrans toute l'année et là, j'avais besoin de reprendre contact. Donc, ce voyage était une belle opportunité pour moi.
Bon, bah, c'est super. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu vas publier un petit peu ce que tu as fait? Est-ce que tu animes aussi des réseaux sociaux? Dis-moi un petit peu, je mettrai les liens.
Je suis pas très forte là-dessus, mais il faut que je change parce que ce voyage aussi, c'était l'occasion de me faire connaître un petit peu dans la communauté No Code. Donc voilà, c'est en prévision. J'ai créé la chaîne, elle a déjà un nom, mais elle a pas de contenu. Donc il faut que je m'attelle à regarder toutes les vidéos et à faire des montages. Pour ça, j'ai aucune expérience pour le moment, donc ça va être une partie de plaisir.
Ok, bah écoute, bon courage pour ça. Donc je mettrai le lien si tu veux sur la chaîne YouTube. T'as un compte Twitter si je dis pas de bêtises.
Non, j'ai pas de compte Twitter. Ah tu bon, peux me trouver sur LinkedIn ou sur.
Ok, je sais pas où est-ce que j'ai l'impression que j'avais vu sur Twitter des photos que t'avais partagées. Bon, je sais pas, on se mélange un peu quand t'étais là-bas, les photos, mais ça devait être sur LinkedIn alors que je les ai vues.
Possible. Tu me trouves plus facilement sur LinkedIn ou sur le Slack? No Code France.
Carrément. Bah, écoute, les gens sauront où te trouver. Je mettrai tous ces liens. Et puis, de toute façon, quand je publierai l'épisode, je partagerai ça avec. Enfin, je te pingerai dans le channel Podcast Contournement. Comme ça, voilà, si les gens ont des questions ou des réactions, bah, on pourra continuer la discussion. Et encore, je suis sur plein de choses, plein de questions que j'ai pu oublier de te poser et qu'on pourra discuter là-bas.
Ça marche, avec plaisir.
Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange qui nous a fait un petit peu voyager, donc c'était chouette.
Merci à toi.
C'était super intéressant.
Et
puis, à très bientôt.
À très bientôt, salut.
Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi j'ai passé un super moment avec Céline. Voilà, j'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager aussi. Peut-être pourquoi pas donner envie d'aller dans ces contrées lointaines. Voilà, même si c'est très bien aussi de voyager en train plus près. Mais bon, ça c'est une autre question. Voilà, écoutez, on arrive, c'est le dernier épisode de la 10e saison, c'est l'épisode 109. Alors en fait, j'ai décidé que finalement, j'allais un peu m'en foutre des saisons, parce que finalement, ça a moins de sens, je trouve, maintenant. Avant, c'est vrai que j'essayais vraiment de concevoir des saisons, donc de 10 épisodes, avec un début, une fin, avec des épisodes un peu spéciaux à certains endroits, etc. Bon, voilà, je pense que maintenant, on peut juste enchaîner. J'ai un épisode d'un enregistrement de façon prévue tout à l'heure, qui sera l'épisode 110, c'est le premier de la 11e saison. Bon, écoutez, de toute façon, voilà, je vais essayer de faire en sorte que de toute façon, tous les épisodes soient toujours intéressants. Des fois, il y aura des épisodes spéciaux, des fois, il y aura des épisodes normaux. Et puis voilà, je vais garder simplement la numérotation parce que je trouve ça assez joli, l'histoire des saisons dans les applis de podcast et tout. Mais voilà, d'un point de vue, on va dire, d'organisation, vous l'avez compris de toute façon, hein, depuis le début de l'année, maintenant je vais sortir des épisodes un petit peu quand je le peux. Je vais essayer quand même d'en faire toujours au moins deux par mois. Clairement, j'arriverai plus à faire un par semaine comme je faisais avant. Voilà, un à deux par mois, essayer de faire des choses intéressantes. Des fois, suivant les actus, il y aura des choses plus fréquentes ou pas. Voilà, écoutez, on verra bien, on se laisse un petit peu aller. Là, en plus, c'est l'été, donc il y aura probablement pas trop d'autres épisodes après l'épisode 110 de la semaine prochaine. D'ailleurs, l'épisode pour 110, donc voilà, si vous écoutez jusqu'ici, c'est que vous êtes un fan et vous méritez de savoir en exclusivité qui sera le prochain invité, qui sera la prochaine invitée, puisque c'est une femme à nouveau, et il s'agit de Sarah Estève, pour qu'elle nous raconte la Bubble Week, ou la Bubble House, je me souviens plus comment ça s'appelait, je me renseigne avant de l'enregistrement, non mais je crois que c'était la Bubble Week, voilà ce super événement qu'elle a organisé depuis un an, voilà, une énorme orga, voilà, et donc je voulais qu'elle nous raconte ça, je voulais la féliciter aussi de vive voix, parce que je trouve ça super ce qu'ils ont réussi à faire. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, passez une bonne semaine, vous aurez un épisode la semaine prochaine et puis après il y aura sûrement le break estival comme on dit. Allez, à très bientôt.